Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette deuxième édition avec deux invités prestigieux, Christophe Sempels et Bernard Ferret, qui vont nous parler aujourd'hui de l'économie de la fonctionnalité et de la, c'est-à-dire de toute la philosophie, toute la réflexion que l'on peut avoir autour de l'économie à partir de celle-ci. Alors je suis très heureux de les avoir tous les deux pour des raisons diverses. La première, Christophe est un ami, on s'est connu il y a quelques années, et on a, en fait, il est l'un des responsables, ou une des personnes qui est à l'origine de la conception de ce cycle. C'est en fait avec Roland et avec Christophe que nous avons réfléchi à la conception du cycle, et vraiment Christophe m'a beaucoup aidé à réfléchir sur les thèmes qui pourraient faire partie de ce cycle. Alors Christophe est professeur de stratégie, marketing et développement durable à Schema Business School, donc c'est à Sofia Antipolis. Il est l'ardent promoteur du marketing durable. Et donc il a toute une série d'expériences très concrètes sur ce que peut apporter cette réflexion qu'est l'économie de la fonctionnalité pour faire évoluer, je dirais, notre système économique. Et puis enfin, nous avons Bernard Ferret. Alors Bernard Ferret, je suis vraiment très heureux aussi de l'accueillir ici, car en fait je le lis depuis pratiquement 20 ans. Ça ne dit évidemment rien sur son expérience, sur son âge, mais je voudrais simplement déjà mentionner deux livres que j'ai lus c'est un livre 93, celui-ci, L'économie contre la société, affronter la crise de l'intégration sociale et culturelle, c'était avec Guy Roustan. Et puis aussi L'avenir du travail, rappelez-moi peut-être alors le 96, voilà, Les démocraties face au chômage. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié la clarté dans les propos de Bernard Ferret. Et puis enfin, je l'ai retrouvé récemment, à la suggestion d'ailleurs de Dominique Bourg, qui était prévu en fait au départ pour cette session, et qui m'a suggéré de contacter Bernard Ferret suite à la publication de son livre « Pour une raison écologique ». Et je veux dire que j'ai lu ce livre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et de passion, et nous aurons d'ailleurs également le plaisir de vous l'offrir aujourd'hui à la fin de ce séminaire. Et dans ce livre, Bernard Ferret fait tout un plaidoyer pour une évolution dans notre rationalité. Et donc je pense que ça fait un prolongement utile par rapport à ce que Benoît Dubuisson nous a proposé, nous a évoqué il y a un mois maintenant avec Shura Merkman sur une autre rationalité et comme il l'avait bien expliqué autour du naufrage des économistes. Donc aujourd'hui, Bernard Ferret, même s'il n'est pas effectivement philosophe, va aborder en fait, je vais dire, tout le développement philosophique que l'on peut avoir autour de l'économie de la fonctionnalité. Je pense que son livre, à nouveau, le positionne bien. Il fait un énorme, je vais dire, travail de synthèse sur toutes les pistes que l'on peut poursuivre pour développer cette nouvelle raison écologique. Et en particulier, je trouve qu'il y a toute une série de réflexions philosophiques, proprement philosophiques, dans toute son analyse, et c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, et pendant que les derniers arrivants nous rejoignent, je vais tout de suite céder la parole à Christophe. Christophe,
merci. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis très très heureux de passer cette soirée en votre compagnie autour d'un thème qui effectivement m'est cher, autour d'un thème dont je me réjouis à l'idée de débattre avec vous, avec Bernard, avec Laurent et Roland. Je vais peut-être me présenter, mais très très rapidement. Donc mon nom est Christophe Sempels, j'ai 37 ans. Je travaille à Schema Business School, qui est une école de commerce en France, située à Sofia Antipolis, à Lille, à Paris. On a un campus également aux États-Unis, en Caroline du Nord et en Chine, à proximité de Shanghai. J'y enseigne la stratégie, le développement durable, et plus exactement, je m'intéresse à l'articulation qu'il peut y avoir entre développement durable et stratégie d'entreprise, essentiellement sous le prisme du business model. Donc j'essaye de penser la manière d'intégrer le développement durable au cœur du raisonnement stratégique de l'entreprise pour redéfinir ses modalités d'interaction avec les marchés, de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus compatible avec les enjeux du développement durable. Vous allez voir, tout ça va être beaucoup plus clair dans un moment. Alors, le thème qui m'amène à vous ce soir, une question bien ambitieuse, la nature suggère-t-elle une nouvelle forme d'économie basée sur la fonctionnalité ? Ce que je vous propose, c'est de partir un peu à la découverte d'abord du contexte des enjeux gravitant autour de l'économie de la fonctionnalité. Je ne suis pas certain que c'est un terme qui est familier pour toutes et tous, donc je vais bien évidemment vous l'expliquer. Vous montrer aussi comment il s'encastre dans toute une série de, je dirais, d'éléments en construction et en évolution les uns par rapport aux autres, la circularité, les coefficients, la fonctionnalité préliminaire. Je ferai une extension vers des questions qui sont davantage des questions de rupture paradigmatique, sachant que l'économie de la fonctionnalité n'est pas une rupture paradigmatique. Je passerai la parole à Bernard qui poursuivra dans l'enrichissement de cette discussion. Un constat d'abord, je ne vais pas vous assommer ni avec des chiffres ni avec des constats. Une précision quand même, vous avez compris, je ne suis absolument pas philosophe, donc moi je vais vous apporter ici un éclairage beaucoup plus business sur la problématique et les questions qui se posent autour de l'économie de la fonctionnalité et les enjeux dans lesquels cette économie de la fonctionnalité s'installe. Alors un constat parmi beaucoup d'autres en matière de développement durable, nous avons aujourd'hui une économie très largement couplée. Alors, qu'est-ce que signifie le couplage de notre économie ? En substance, on constate que chaque pourcentage de produit intérieur brut s'accompagne d'une hausse quasi équivalente, légèrement inférieure ou parfois un peu supérieure, avec l'ensemble des ponctions que l'on réalise dans le capital naturel. Nous avons besoin de ressources pour faire fonctionner notre économie, c'est pas un scoop que je vous lance là, mais nous avons besoin de ressources dans une proportion à tout le moins équivalente et parfois même un peu plus importante que l'accroissement de notre croissance, de notre richesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, quand on part de l'idée qui est assez claire et assez accessible à un enfant de moins de 5 ans, que l'ensemble de notre stock de ressources est fini, se pose immédiatement la question de projeter une croissance étroitement couplée à des ressources. Ici, on a des ressources en termes de minerais, en termes de métaux. Ici, on a des ressources en termes de combustible, d'énergie. Comment projeter et imaginer une croissance infinie, sachant qu'elle est couplée sur un stock de ressources finies et qu'elle a besoin de ces ressources pour fonctionner? C'est évidemment antinaturel. Donc là, vous voyez que en bleu, on a l'évolution du produit intérieur brut, et puis vous avez toutes les courbes ici sur du minerai, sur du métal, sur le pétrole, sur les combustions, sur les émissions de CO2, sur la consommation de gaz. Nous avons besoin de ressources pour fonctionner, et notre économie est extrêmement énergivore et gourmande en ressources. Malheureusement, je vous le disais il y a un instant, notre stock de ressources est limité, notre stock de ressources est fini, et il faut nous faire une idée qui sera de plus en plus présente dans la réalité économique, c'est que l'accès aux ressources deviendra de plus en plus compliqué, tant en termes de disponibilité quantitative que qualitative. Je vous cite ici un extrait du Conseil économique et social en France, qui mentionne, confirme, alerte, si besoin en est, que, mesdames et messieurs du monde de l'entreprise, il faut se faire à l'idée que nous entrons dans l'ère des ressources rares et donc des ressources chères. La Commission européenne a commandé un rapport visant à évaluer les 40 ressources en termes de minerais et en termes de métaux qui sont critiques pour la compétitivité de l'économie européenne. Ça veut dire que ces ressources, nous en avons impérieusement besoin pour faire tourner l'économie européenne. Et sur ces 40 ressources, le rapport est relativement récent, il a dit un an, sur ces 40 ressources, 14 sont jugées comme ayant atteint un seuil critique compte tenu de leur importance économique pour l'Union et compte tenu des risques de rupture de supply chain dans un avenir relativement court terme. On va trouver là-dedans les terres rares, on va trouver là-dedans le graphite, on va trouver le platine, on va trouver le cobalt qui est nécessaire par exemple à la technologie batterie-ion lithium. Alors projetons-nous maintenant dans une réalité d'entreprise. Renault est en train de miser et est en train de réaliser un virage stratégique majeur sur le tout électrique s'appuyant sur des batteries-ion lithium, dont un des ingrédients et critique en termes de disponibilité. Vous voyez directement les interactions macro-micro que la problématique des ressources nous renvoie. Alors évidemment, quand on quand on sait que d'un côté on a une économie largement bouclée et que de l'autre on a des ressources qui vont commencer à manquer pour certaines d'entre elles et dans tout état de cause dont le cours va peser de plus en plus sur la structure des coûts des entreprises, bah, se pose une question assez naturelle qui est celle du découplage. Est-il possible de casser ce lien étroit qui relie création de richesses d'une part, consommation de ressources et d'énergie d'autre part. Est-il possible de casser ce lien en accroissant de manière radicale la productivité de nos ressources, c'est-à-dire en étant beaucoup plus efficace dans notre capacité à produire de la richesse en utilisant beaucoup moins de ressources, et ceci de manière assez radicale. Alors c'est la question en fait que l'économie de la fonctionnalité nous pose. Ou plus exactement, l'économie de la fonctionnalité est une modalité de réponse parmi d'autres, hein, il y en a d'autres, mais une modalité de réponse par rapport à cette problématique du découplage. Aujourd'hui, les scientifiques nous alertent quant à la nécessité d'atteindre ce qu'on appelle le facteur 4. Alors, le facteur 4, pour certains, est même déjà très largement insuffisant. On parle du facteur 9, du facteur 20. Alors, le facteur 4, en substance, c'est quoi ? Ben, ça signifie qu'il conviendrait d'améliorer la productivité de nos ressources d'un facteur 4, c'est-à-dire à périmètre constant, de diminuer de 80% la consommation de ressources et d'énergie pour atteindre le même niveau de production de richesse. Vous imaginez, quand vous projetez ça maintenant dans la réalité d'une entreprise, le chemin à parcourir pour atteindre un même niveau de création de richesse en divisant par 4 la quantité de ressources et d'énergie utiles à la réalisation de cet objectif économique. Le chemin est gigantesque. Et l'économie de la fonctionnalité, dans certaines de ses modalités en tout cas, permet d'atteindre le facteur 4. Mais vous allez voir que le chemin n'est pas simple, il est extrêmement exigeant et dans tous les cas, il questionne les business models des entreprises. Cette économie de la fonctionnalité, je voudrais vous la positionner dans un encastrement en fait, de logique qui monte en puissance en capacité de découplage. Alors, je vais vous parler d'abord des coefficients, d'économie de la circularité, d'économie de la fonctionnalité, sachant que l'objectif qui m'a été assigné, c'est vraiment de mettre un accent sur cette économie de la fonctionnalité, d'autant que je pense que lors de la conférence précédente, on vous a parlé d'écologie industrielle, on vous a parlé d'économie circulaire, donc ce terme vous est déjà familier. Éco-efficience. L'éco-efficience, qu'est-ce que c'est en substance ? C'est faire la même chose avec moins. Avez-vous une idée de la quantité d'eau nécessaire pour produire un kilo de pain ? Combien pensez-vous qu'il faille d'eau pour produire un kilo de pain ? 150 litres, 10 litres. Alors, un kilo de pain nécessite 1300 litres d'eau. Parce qu'évidemment, pour faire du pain, on a besoin de farine. Pour faire de la farine, on a besoin de céréales. Et pour faire pousser les céréales, on a besoin d'eau. D'accord ? Un kilo de bœuf.
10 000.
Moi, j'ai 15 dans mes tablettes. Une voiture, 150 000 litres en moyenne. En fait, ça dépend du modèle, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique qu'en fait, dans nos produits, se cache une quantité effroyable de ressources qui sont invisibles et dont nous n'avons absolument pas conscience. L'idée de l'éco-efficience, c'est d'arriver à produire le même résultat en termes de qualité fonctionnelle, de qualité esthétique, en utilisant radicalement moins de ressources. Alors, plutôt que de faire des longs discours, j'ai privilégié plutôt les exemples, je vais aller assez vite là-dessus. Levi's, vous connaissez sans doute Levi's, hein, la marque de jeans, pantalon. Ils ont développé un programme qui s'appelle le programme Waterless. Alors, il se trouve que pour produire un jeans, on a également besoin d'une très très grande quantité d'eau. Et ils ont développé en fait un vaste programme de recherche et développement avec pour objectif principal de réduire considérablement les volumes d'eau utilisés dans la production des jeans. Ils ont obtenu en moyenne un gain au niveau du programme sur l'ensemble des gammes de 28% de réduction, avec pour certains modèles une réduction de 96% sur l'eau utilisée pour produire le jeans. Donc vous imaginez les gains à la fois en termes de ressources et corollairement en termes économiques que peut mener ce genre de programme. Là, on est au cœur de la logique d'éco-efficience. Repenser un produit, repenser ses modalités de conception en vue de réduire les ressources qui sont intégrées au processus de production de ce produit. Alors, je voudrais vous en donner d'autres. LVMH travaille beaucoup sur l'éco-conception, notamment de ses packaging. Et ils ont revu cette bouteille de cognac Hennessy. Ils l'ont complètement éco-conçue. L'éco-conception, pareil, vise à asséner une cure de régime à la bouteille, tout en maintenant évidemment ses caractéristiques et ses qualités esthétiques. On est dans le luxe. Donc là, on est passé sur une bouteille qui, initialement, faisait 780 grammes en termes de verre et n'utilise aujourd'hui plus que, ça reste quand même beaucoup, mais plus que 600 grammes. Alors, vous allez me dire, un gain de 180 grammes par bouteille, c'est quand même pas la mer à boire. Quand on multiplie ça par le volume de bouteilles, on a une réduction de 715 tonnes de verre annuel, ce qui là commence à devenir intéressant. C'est une bouteille qui a supprimé l'étiquette, donc plus d'étiquette, plus de colle, une impression directe par pyrogravure sur le verre, qui a remplacé la capsule en étain par une capsule en bois issue de forêts durablement gérées. Donc pareil, tout ça a permis de réduire considérablement la quantité de ressources nécessaires à la bouteille. Cineo, un autre exemple. Cineo, c'est une entreprise qui a été créée à Lille. C'est un carrosse sans eau. Plus exactement, c'est une solution de nettoyage de véhicules sans eau. Depuis la création de Cineo en fin 2004, compte tenu des services rendus, Cineo a permis d'économiser 55 000 m3 d'eau. Donc vous voyez que là, on est sur des volumes qui sont très très importants et qui se construisent dans des logiques d'éco-efficience. La Poste en France, c'est la plus grande flotte de véhicules détenus par une entreprise. Vous imaginez le nombre de véhicules détenus par une entreprise comme La Poste sur l'échelle de la France. La Poste a mis en place un programme de formation à l'éco-conduite de l'ensemble de ses conducteurs de véhicules. Lorsqu'ils sont montés en charge, donc ils sont occupés à monter en charge, à 50% de personnel formé, ils avaient déjà engrangé 6% de réduction de carburant. 6% de réduction de carburant sur la taille de la flotte de La Poste, vous imaginez ce que ça représente en termes de milliers de litres, de dizaines de milliers de litres, et donc en termes d'euros économisés, et 10% d'accidents en moins. Donc là, un objectif résolument social. Donc vous voyez qu'on a déjà aujourd'hui, quand on a investi dans des voies d'éco-conception, la possibilité de repenser nos processus de fabrication, nos processus de recherche et développement, la composition de nos produits, de manière à leur asséner une cure d'amaigrissement. Alors ça, c'est le premier niveau. L'économie de la fonctionnalité présuppose qu'on s'inscrit dans les logiques d'éco-efficience. C'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus. Deuxième niveau, l'économie de la circularité. L'économie de la circularité, ça vise à transformer un déchet non valorisé en ressources. En substance, nous avons une formidable capacité à produire du déchet. Là, on est très très bon pour produire du déchet. Et c'est très paradoxal, parce que d'un côté, on a des ressources qui nous manquent, et d'un autre côté, on a une quantité de ressources non valorisées qui finissent leur vie de manière non exploitée. Donc l'idée, c'est de boucler des boucles et de faire tourner la matière sur elle-même de manière à ce qu'on puisse récupérer de génération de produits en génération de produits un maximum de composants. Ça vaut pour la matière, ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour toute une série de choses. J'imagine que mon prédécesseur a dû vous parler du parc industriel de Cavenbourg basé sur de l'écologie industrielle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est plus un exemple micro, un exemple d'entreprise. Whirlpool, que sans doute vous connaissez, a développé un concept de cuisine qui s'appelle la Green Kitchen. Et ce concept de cuisine a pour particularité de s'inspirer du fonctionnement systémique et cyclique de la nature, et plus exactement de l'interdépendance de l'ensemble des éléments que l'on trouve dans la nature. Alors, plus spécifiquement, tous les appareils d'abord de cette cuisine sont évidemment éco-conçus, ça veut dire que le lave-vaisselle va consommer moins d'eau et moins d'énergie, il sera de catégorie énergétique plus, idem pour le four, idem pour le lave-vaisselle, etc. Mais la particularité de cette cuisine, c'est qu'elle va interconnecter les appareils les uns aux autres. Donc, pour vous donner un exemple, l'eau du lave-vaisselle va être préchauffée par la chaleur dégagée par le compresseur du frigo. Lorsque vous allumez le robinet de l'eau dans votre cuisine, le plus souvent, c'est de l'eau claire qui coule. Parce que vous allez chercher une marmite, parce que vous lavez les mains, et qu'entre deux, quand vous la savonnez, il y a de l'eau parfaitement pure qui coule. Et donc là, il y a un capteur qui va analyser la qualité de l'eau et qui va soit l'envoyer à l'égout, soit la stocker dans un réservoir si elle juge que son niveau de pureté est suffisant, que pour pouvoir être réenvoyé dans le lave-vaisselle, vous pouvez également accéder à ce réservoir pour arroser vos plantes, pour faire le nettoyage de votre maison. Voilà, il y a plein d'exemples d'interconnexion entre les appareils de cette cuisine. À la sortie, cette cuisine redirige 60% de l'eau et de la chaleur vers d'autres appareils et permet comparativement à une cuisine classique un gain énergétique de 70%. Donc elle consomme 70% moins d'énergie qu'une cuisine classique. Grâce à cette mise en interdépendance de ces composants, on est là sur un principe de construction produit qui se fonde sur les principes de l'économie de la fonctionnalité. Alors, je ne résiste pas à un petit exemple. Ça, c'est le palais de la Méditerranée, un hôtel à Nice, un palace 5 étoiles. La piscine est chauffée par la salle de serveur. Plus exactement, vous savez que les serveurs informatiques génèrent beaucoup de chaleur, hein, que très souvent, on utilise des climatiseurs pour réduire la température. Donc, c'est une hérésie. On a besoin de chaleur. Et on consomme de l'énergie pour neutraliser cette chaleur, alors qu'on va utiliser de l'énergie pour créer de la chaleur ailleurs dans le bâtiment. Eh bien là, non, par un principe d'échangeur de chaleur, il récupère les calories générées par les serveurs pour chauffer la piscine de l'établissement. Voilà, là on est sur les principes de l'économie circulaire, ça fonctionne, c'est un rationnel à la fois environnemental et à la fois économique. Donc n'oubliez pas, éco-efficience, économie circulaire, et puis on rentre dans l'encastrement avec l'économie de la fonctionnalité. Alors l'économie de la fonctionnalité, c'est quoi ? L'économie de la fonctionnalité, elle vise à changer résolument le business model d'une entreprise en la faisant passer d'un mode de vente de produits à un mode de mise à disposition d'un service qui satisfait les mêmes besoins que ceux initialement pris en charge par le produit. Alors là, ça peut vous paraître un peu gazeux, donc je vous donne des exemples. Il y a deux modalités en matière d'économie de la fonctionnalité. On va parler 3S, les Sustainable Service Systems, les systèmes serviciels durables. La première modalité de transition vers l'économie de la fonctionnalité consiste à dire je ne vais plus vous vendre un bien, je vais vous mettre ce bien à disposition pour vous en facturer l'usage. D'accord, vous connaissez sans doute toutes et tous le car sharing. Le car sharing vise non pas à vous vendre un bien, mais à vous mettre à disposition un véhicule pendant un temps donné. Et vous serez facturé à l'utilisation de ce véhicule. D'accord. Donc il y a une première dimension qui consiste à mutualiser des biens. Alors, on peut évidemment immédiatement se projeter dès qu'on pense à la mutualisation. On peut se projeter dans les gains environnementaux que cette mutualisation permet. Alors, on peut imaginer que l'intensité d'utilisation d'une voiture qui va être mise en autopartage va être bien plus importante qu'une voiture qui sera possédée de manière classique. Hein, en moyenne, une voiture passe 97% de son temps au parking. Donc l'idée, c'est de réduire ce temps d'arrêt, de maximiser son temps d'usage, de manière à ce qu'une voiture ne profite pas à une personne ou une famille, mais à un grand nombre de familles, pour satisfaire les mêmes besoins de déplacement, tout en faisant fondre le nombre de véhicules roulant sur nos routes, chacun d'eux constituant évidemment une mobilisation de ressources assez importante. Donc ça, c'est une première modalité, on est sur de la mutualisation. D'accord. Alors c'est évidemment déjà en soi assez intéressant, mais le service centré sur l'usage permet en fait des choses encore plus intéressantes. Et là je voudrais partager avec vous l'exemple de Xerox, où en fait on passe d'une simple mutualisation à la création d'un écosystème circulaire. Xerox, vous connaissez sans doute Xerox, c'est un vendeur de photocopieurs et beaucoup d'autres choses, mais Xerox au départ vendait classiquement des photocopieurs. Et puis un jour, alors au départ c'était pour des considérations non environnementales, mais au départ, un jour ils ont décidé de ne plus vendre les photocopieurs, mais de les louer à leurs clients, tout en conservant le titre de propriété du photocopieur. Et puis ils se sont rapidement rendus compte que, fatalement, gardant le titre de propriété du photocopieur, leur revenait un très grand nombre de photocopieurs dans leur hangar. Et ils se sont dit, on a fait une bêtise énorme, on a internalisé un coût jusqu'ici à charge du client qui était le coût de gestion, de prise en charge du produit en fin de vie. On est complètement fou, revenons bien vite à notre modèle de vente de produits. Et puis, là, il y a des gens du service environnement à l'époque qui ont dit, mais attendez, toutes ces machines qui dorment dans nos hangars, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'essayer de récupérer des composants de ces anciennes machines pour les réintroduire dans nos nouvelles générations de machines. Sauf que malheureusement, les machines n'avaient pas été conçues pour ça. Elles avaient été peu développées, en tout cas dans un esprit de démontabilité, de récupérabilité des composants, en vue de les réintroduire dans les nouvelles générations de machines. Donc ils se sont dit, il faut qu'on développe des programmes de recherche et développement visant à assurer un produit des capacités de démontabilité, de récupérabilité et d'échange facile de toute une série de composants d'un produit à l'autre au fur et à mesure des générations de machines. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Xerox récupère entre 70 et 90% des composants des anciennes machines pour les réintroduire dans les nouvelles machines.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète aujourd'hui une nouvelle machine, enfin, pas quand on achète, mais quand on obtient une nouvelle machine Xerox, celle-ci, comparativement à la création d'une machine from scratch, mobilise entre 10 et 30% de ressources, c'est-à-dire beaucoup moins de ressources. Donc d'abord, on a là un gain très très important en termes de ressources. Deuxième élément, lorsque vous créez des boucles comme celle-là, et lorsque vous facturez à l'usage, vous avez un avantage direct à ce que votre produit dure le plus longtemps possible. D'accord ? On est là dans une logique qui va à l'encontre d'une autre logique qui malheureusement aujourd'hui est majoritaire dans l'industrie, c'est celle de l'obsolescence planifiée, l'obsolescence programmée, où on va raccourcir la durée de vie économique d'un bien bien au-delà de sa durée de vie technologique. En substance, hein, l'exemple emblématique, c'est l'imprimante. L'imprimante a une puce en son sein qui est programmée sur un nombre maximum de tirages. Le jour où on atteint ce nombre de tirages, même s'il a toutes les raisons de continuer à fonctionner, et électroniquement, elle s'arrête. Et c'est terminé, vous pouvez la mettre à la poubelle pour acheter une nouvelle imprimante. Et c'est évidemment comme ça que fonctionnait l'industrie du photocopieur et un très très grand nombre d'industries aujourd'hui. Et évidemment, on comprend tout le rationnel derrière l'obsolescence programmée. Le rationnel, c'est quoi? C'est que si vous vendez un produit qui dure pour toujours, vous vous privez du marché de remplacement, donc vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, il y a toujours un calcul et un délicat équilibre à trouver entre la durée de vie suffisamment longue que pour être compétitive sur le marché, mais surtout pas trop pour ne pas nous priver du marché de remplacement. Quand on s'inscrit dans une modalité de service centré sur l'usage, on a au contraire un rationnel économique à faire durer le produit le plus longtemps possible, à le construire sur le principe de la durabilité en termes de vie, de facilité de démontage, de facilité de réparation. Hein, j'ai acheté récemment une Senseo. Et puis cette Senseo, un jour, ne fonctionnait plus. Et comme moi, ça m'agace quand les choses ne fonctionnent plus, j'ai tendance à retourner l'appareil et à vouloir le démonter. Et là, j'étais très très énervé de voir qu'il n'y avait même pas de vis pour l'ouvrir. D'accord ? Et donc, comme voilà, ça ne m'a pas plu, je me suis attaqué à la machine au tournevis. J'ai fini par réussir à l'ouvrir. En fait, c'était vraiment une bêtise. La machine, je l'ai réparée en moins de 3 minutes. Pourtant, je vous assure que je ne suis pas un grand électronicien. Mais évidemment, comme j'avais un petit peu cassé tout pour l'ouvrir, il a été très très difficile pour moi de lui redonner un aspect valable. Donc, mon épouse a accepté qu'elle reste dans un état misérable dans la cuisine pendant encore un an. Je disais, pendant un an, elle avait vraiment un pauvre aspect, mais elle me faisait du café tous les matins. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, Chris, ça suffit, vire-moi ce truc, sinon je ne sens plus à rien. Et je n'ai pas racheté de Senseo parce que j'ai trop fait sur cette machine. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Donc là, vous voyez qu'on est bien ici sur des logiques économiques qui vont à l'encontre de la réparabilité, de la réparation. Ici, dans le système centré sur l'usage, on est sur d'autres rationnels. Et c'est ceux-là qui nous intéressent, avec un rationnel économique et également un rationnel environnemental. D'accord ? Et puis, il y a également la capacité à satisfaire des besoins sociaux nouveaux. Alors, je vous donne un exemple. Electrolux a tenté pendant un temps de développer sur une île en Suède, l'île de Gotland, un projet de mise à disposition de lave-linge moyennant un service de facturation à l'usage. Donc ça veut dire qu'en substance, on vous mettait à disposition un lave-linge chez vous et vous payez à chaque cycle de lavage. Le problème, c'est qu'à l'époque où le test a été réalisé, on n'avait pas encore développé les technologies d'objets communicants et donc ils ont passé un accord avec l'énergéticien local pour pouvoir mesurer les taux d'utilisation. Donc il y avait un petit boîtier qui envoyait un signal à l'énergéticien. Ils n'ont pas poursuivi l'initiative qui pourtant s'avérait extrêmement concluante à la fois en termes de rentabilité et en termes d'acceptabilité sociale. Ils ne l'ont pas poursuivi pourquoi ? Parce que, évidemment, ils perdaient le contrôle de leur marché. Donc, comment pouvez-vous accepter de compter sur un tiers pour obtenir votre unité de facturation ? Et puis surtout, c'était très facile pour l'énergéticien de se passer d'Electrolux et de conclure un partenariat avec un autre. Imaginez maintenant que la technologie de l'objet communicant elle existe, imaginez qu'on pourrait facilement réintroduire cette donnée. Et là, ça permet de résoudre des problèmes sociaux, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté, malheureusement, coûte très cher. Si on regarde uniquement le nettoyage du linge, les gens qui n'ont pas la capacité économique de supporter le prix de l'achat d'un lave-linge, ils vont au lavoir. Or, croyez-moi, aller au lavoir coûte beaucoup plus cher que de pouvoir faire sa lessive à domicile. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on arrive à mettre en place un circuit
avec un tarif qui tient la route et qui en tout cas est moins élevé que le tarif lavoir automatique, on peut élargir considérablement l'accès à une population qui aujourd'hui n'a pas les moyens économiques de s'acheter ce genre de matériel. On peut éventuellement mutualiser ça sur des immeubles, ça se pratique en Suisse aujourd'hui, ça se pratique également dans une moindre mesure en Allemagne, et on peut également atteindre des objectifs sociaux. Donc vous voyez que derrière ces services centrés sur l'usage, on peut se dire que c'est une transition mineure, en fait cette transition elle permet énormément de choses et c'est ça qui la rend fascinante. Mais évidemment, le business model se renverse de manière assez considérable.
Au niveau timing, une autre question.
Ça, c'est la première modalité en termes d'économie de la fonctionnalité. La deuxième modalité, celle-là, nous permet d'atteindre, alors selon les tests pilotes qu'on a, nous permet d'atteindre du facteur 2. Donc rappelez-vous, diviser par 2 la quantité de ressources et d'énergie nécessaires à la satisfaction de nos besoins. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il y a une deuxième modalité qui est celle qu'on appelle le service centré sur le résultat. Alors, le service centré sur le résultat consiste en quoi ? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous nous appeliez Monsanto, vous vendez du pesticide, et évidemment, comme vous vendez du volume de pesticides, vous n'avez aucun incitant économique réel à ce que vos agriculteurs utilisent moins de pesticides. Voilà. Donc, quand il y a un grand message corporate qui annonce avec fracas que Monsanto s'engage à diminuer la consommation de pesticides, ce n'est absolument pas cohérent avec son business model. De la même manière, quand un énergéticien vous dit qu'il va participer à la réduction de la consommation électrique, alors ça a un rationnel économique sur l'énergie de pointe, parce que c'est de la coûte plus cher à produire qu'à vendre. Dès qu'on est en dessous de l'énergie de pointe, c'est terminé. Il n'y a plus de rationnel économique derrière. Et donc l'idée, c'est mais que pouvons-nous vendre d'autre à notre agriculteur si nous voulons que notre business model puisse continuer à produire de la richesse tout en vendant résolument moins de pesticides. Et là, on s'interroge quant au résultat du pesticide. En fait, pourquoi l'agriculteur achète un pesticide ? Il achète un pesticide pour protéger sa culture. Et donc, plutôt que de lui vendre du pesticide, nous pourrions décider de lui vendre le résultat rendu par le pesticide, à savoir un taux de perte maximum admissible sur ses cultures. Je vais vous vendre un contrat de service avec un service level agreement où je vais vous dire, avec les pesticides, vous avez combien de taux de perte en moyenne, 10%. Ok, moi je vais vous garantir contractuellement un taux de perte maximum admissible de 10%. Si je fais mieux, vous me rémunérez davantage. Si je fais moins bien, je vous rétrocède une partie du contrat. Et là, évidemment, puisque vous êtes rémunéré sur votre capacité à atteindre un résultat, le pesticide ne devient plus le moteur de votre revenu, mais devient un moteur de coût. Il devient un driver de coût que vous avez économiquement intérêt à minimiser. Donc on a renversé la logique. D'accord ? Pardon ?
À minimiser ou à éliminer ?
Alors, idéalement même, à éliminer. Et on a une société aux Pays-Bas qui s'appelle Copper, qui travaille plus ou moins sur un élément comme celui-là en réintroduisant des prédateurs naturels aux parasites dans les cultures. Alors vous imaginez si vous arrivez à compter sur des partenaires naturels pour faire le boulot du pesticide à votre place tout en étant rémunéré sur le taux de perte maximum admissible, ben là vous avez tout gagné et là il n'y a plus de pesticides dans le champ. D'accord ? Donc là, on a après des modalités qui mobilisent en tout cas des autres rationnels et c'est en ça que c'est très intéressant. On a des exemples business, parce que l'exemple que je vous ai donné là, il est théorique, il est extrêmement difficile à mettre en œuvre. S'il y a des agronomes dans la salle, de ricaner sous cap, parce que c'est effectivement très très compliqué. Gauthier pourra en témoigner. D'accord ? Néanmoins, il y a des exemples assez intéressants. Je voudrais vous parler de l'exemple de Michelin, de SafeChain également. Alors Michelin, vous connaissez toutes et tous Michelin, vendeur de pneus. Quand on vend du pneu, pareil, on a intérêt à ce que la durée de vie du pneu soit suffisamment longue que pour être compétitif. Il n'est pas question évidemment de vendre un pneu qui dure deux fois moins longtemps que mon concurrent, sinon je suis dehors du marché. Mais ne soyons pas fous, on n'a pas donné un pneu. Si la durée de vie moyenne dans le secteur est 40 000, il serait totalement suicidaire de proposer un pneu à 100 000. Pourquoi ? Parce que à moins de le vendre deux fois et demi plus cher que le pneu, là, il y aura un rationnel économique. Commercialement, par contre, vous auriez beaucoup de difficultés à vendre le pneu. Parce que d'abord, un, le poste pneumatique chez un transporteur, puisqu'il s'agit ici d'une modalité B2B via les transporteurs routiers. Le poste pneumatique, c'est du coût fixe. Okay. Or, le coût fixe, quand on fait du transport routier, on a envie de le minimiser.
Donc on n'a pas envie d'avoir à supporter une structure de coût fixe trop élevée, sachant que potentiellement, si j'ai un ralentissement d'activité, ce coût fixe, il faut continuer à les supporter. Donc ça ne m'intéresse pas trop de payer 2,5 fois plus cher mes pneumatiques. Et puis on sait que de temps en temps, un pneu, ça éclate. Et si j'ai un pneu qui éclate à 20 000 quand il est programmé pour 40 000, il a la moitié de sa durée de vie. S'il éclate à 20 000 quand il est programmé sur 100 000, il éclate à 20% de sa qualité de vie, et là quand même, ça énerve. Donc commercialement, vous vous rendez bien compte qu'un pneu à 100 000, ça ne tient pas les rails, et qu'il sera impossible de justifier un surprix sur un pneu comme celui-là. Donc résultat, qu'est-ce qu'on fait? On n'en fait pas, alors que technologiquement, c'est possible. Et en fait, partant d'un double constat, premier constat, les transporteurs routiers aujourd'hui souffrent, notamment de la crise, notamment de la hausse des prix du pétrole, et cherche à variabiliser un maximum de coûts fixes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si vous avez à variabiliser, vous êtes lié au revenu d'activité, c'est beaucoup plus confortable pour le transport. Donc Michelin s'est posé la question de savoir, est-il possible de variabiliser le coût du poste pneumatique? Deux, est-il possible de développer un business model, un modèle économique qui permet aux pneus de durer drastiquement plus longtemps que ce que nous pouvons trouver aujourd'hui dans le marché? Alors, je vous demande, mille, qu'est-ce qu'ils vendent aujourd'hui à votre avis? Basé sur cette logique que je viens de vous évoquer. Et pour les transporteurs routiers, uniquement, pour les transporteurs professionnels, c'est pas une offre qu'on trouve en plus. Alors, c'est effectivement du contrat au kilomètre. Donc, ça veut dire qu'ils vont vendre un service de gestion externalisée du poste pneumatique, dans lequel ils mettent de la pneumatique à disposition du transporteur en gardant la propriété et en étant facturé au kilomètre. D'accord. La logique est inversée. Quand vous mettez un train de pneus sur un client, sur un camion, et vous êtes facturé au kilomètre, vous avez à nouveau un intérêt économique à ce que ce pneu il dure le plus longtemps possible. Et par miracle, là, maintenant, le pneu dure 100 000. Ils ont multiplié par 2,5 la durée de vie du pneu. En plus, l'intérêt, c'est que vous savez qu'une partie de la consommation d'un véhicule est liée au frottement du pneu. Et donc, si on arrive à planifier astucieusement des travaux, du travail de rechappage, du travail de recreusage du pneu, on diminue la consommation. Tout ça a été testé rigoureusement. Et en fait, ils constatent que grâce à l'opération de prolongement de la durée de vie du pneu, ils diminuent en moyenne de 2 à 2,5 litres au 100 la consommation d'un camion. Alors, si on prend un petit transporteur, 10 camions, 100 000 km par an en moyenne par camion, ça représente 25 000 litres de carburant, 35 000 euros par an. Vous voyez, c'est non négligeable. Donc, on a là des rationnels qui, commercialement, sont évidemment beaucoup plus faciles à vendre et qui expliquent pourquoi ce service a été déployé il n'y a pas si longtemps. C'est le Michelin Fleet Solution. Ils ont réussi à capter 300 000 clients dans 24 pays en un temps relativement record. Et aujourd'hui, ils ont un leadership sur cette cible. On est sur un modèle fonctionnel. Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que dès le moment où vous êtes dans du modèle fonctionnel, vous avez un intérêt économique à éco-concevoir. Vous avez un intérêt économique à rentrer dans des logiques d'économie de la circularité. Et c'est ça, en fait, qui fait tout l'intérêt du dispositif. Alors, la Lyonnaise des Eaux est en train de travailler avec les collectivités pour ne plus vendre du mètre cube, mais pour vendre du taux de service environnemental. On est exactement sur la même logique. Xerox a été un pas plus loin. Je vous ai expliqué préalablement le modèle de service centré sur l'usage. Ils vont un pas plus loin en proposant aujourd'hui un service de gestion externalisée de l'ensemble de la production documentaire, dans lequel on va complètement repenser les process business pour notamment réduire l'hardware, la place de l'hardware, pour numériser quand c'est possible, etc. Et c'est aujourd'hui un contrat de service où ils garantissent un résultat. Et donc, ils sont payés au success fees. Ça veut dire qu'ils garantissent contractuellement, au départ, un taux d'atteinte d'économie. Si jamais ils le dépassent, ils ont des bonus. Si jamais ils sont en deçà, ils rétrocèdent une partie du contrat. D'accord. Ils sont aujourd'hui tellement confiants quant à la capacité à faire économiser de l'argent en boîte qu'ils ont basé leur modèle économique sur un success fees. Donc, évidemment, commercialement, c'est beaucoup plus facile à vendre. Donc, vous voyez que c'est pas mal, en tout cas, sur la logique. Alors maintenant, je vous mentirais si je vous disais que la transition est facile, parce que la transition elle est extraordinairement compliquée. Vous modifiez l'ensemble du business model. Pensez uniquement au business model de Michelin, et au redéploiement des activités et des ressources clés, des ressources stratégiques clés qu'un shift de business model comme celui-là lui exige. On passe plus sur un modèle produit, on passe sur un modèle service. Ça veut dire que les canaux de distribution sont à repenser, ça veut dire que la nature même du métier change, ça veut dire que la relation client change. Vous avez désormais une relation client directe. Ça a évidemment un intérêt ça a également ça complexifie les relations, puisque quand on n'a pas l'habitude de gérer en contact direct le client, bah c'est quelque chose de nouveau. Donc on doit reconfigurer complètement le business model de l'entreprise. Mais c'est prometteur. Et celles et ceux qui osent y aller engrangent des résultats vraiment intéressants. Et aujourd'hui, dans les formes les plus poussées de services centrés sur le résultat, on est capable d'atteindre le facteur 4. D'accord ? Ça reste un chemin ambitieux, un chemin difficile. Mais on a des retours d'expérience aujourd'hui qui démontrent que c'est possible. Alors avant de passer la parole à Bernard, très rapidement, bon là je vous ai vraiment montré en substance d'abord un sujet, deux les implications business, trois je vous ai soulevé un peu d'implications en termes de développement durable, sur les considérations environnementales et sur les considérations sociales. Les implications elles sont colossales, nombreuses, passionnantes à explorer. Néanmoins, on est ici sur de l'innovation de business model, et donc en tant que tel on n'est pas sur une rupture paradigmatique. On reste sur les fondements, sur les fondamentaux de l'économie néoclassique, capitaliste. Okay. Donc ça veut dire qu'on ne repense pas drastiquement la manière de produire de la richesse et la manière de produire du bien commun. Alors là, Bernard pourra vous parler de tout ça bien mieux que moi, mais je voudrais quand même vous soulever quelques questions. Pour moi, le modèle d'économie de la fonctionnalité est extrêmement prometteur à plus d'un titre. 1. On n'a aujourd'hui pas beaucoup d'autres solutions qui nous permettent d'atteindre le facteur 4. Ça, c'en est une. Et on a des retours d'expérience qui montrent que ça marche. Donc, on serait quand même idiot de ne pas explorer cette voie. 2. Pour moi, c'est une formidable étape transitoire vers une possible bascule paradigmatique. Pourquoi ? Parce que l'économie de la fonctionnalité, elle présuppose toute une série de choses. Elle questionne d'abord notre rapport à la propriété, puisque vous aurez compris que quand on est dans l'économie de la fonctionnalité, on n'est plus propriétaire du bien. Un élément central dans l'économie de la fonctionnalité, c'est la conservation de la propriété par le producteur pour pouvoir mettre en place des cycles circulaires. Donc on doit renoncer à la propriété. Or, la psychologie sociale, la psychologie cognitive, entre autres, nous montre que dans nos sociétés, la propriété a une valeur en soi. Donc on a déjà là un défi sociologique, anthropologique et en termes de représentation sociale qui est extrêmement important. Mais néanmoins, si on arrive à faire évoluer ce rapport à la propriété, ben mécaniquement, on fait évoluer également la représentation que l'on se fait du bien et le statut même des biens, puisqu'on passe d'un bien privé à un bien commun, et éventuellement même à un bien qui devient public, un bien mutualisé. Tout ça, évidemment, redéfinit ou participe à la redéfinition des représentations sociétales que l'on peut se faire et favorise le passage d'une responsabilité individuelle. Quand je suis propriétaire de ma voiture, j'en fais ce que je veux. C'est ma responsabilité individuelle. À une responsabilité collective. Quand j'utilise une voiture en car sharing, si j'ai un minimum de respect pour les usagers qui me suivront, ben, il s'agit de rendre cette voiture dans le même état que celui dans lequel je l'ai trouvée. Et donc, on collectivise la responsabilité. Et en ça, c'est extrêmement intéressant en termes de représentation sociale. Et puis, on devient co-utilisateur, co-créateur de solutions, puisque dans les services centrés sur le résultat, le client est intimement intégré au processus de prestation de services, dans des logiques de co-création, co-création, collaboration. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que ça nous amène à favoriser des comportements de collaboration et de partage. Et ça peut constituer les prémices d'une bascule paradigmatique. J'ai la chance de travailler sur d'autres projets aujourd'hui, notamment des projets d'incubation de modes de vie durable. Et l'incubation de modes de vie durable cherche à faire un croisement entre le développement durable et la philosophie du libre au sens open source, c'est-à-dire l'open source qui a historiquement été développé dans le logiciel et qui commence à intégrer le monde de la matière. Alors on voit là-dedans des choses fabuleuses. On voit des modèles économiques complètement alternatifs qui sont en train de se créer, dans l'économie du don et dans l'économie du partage, dans l'économie de la collaboration. Il y a aujourd'hui des analystes qui prédisent que l'économie et la consommation collaborative vont avoir autant d'impact dans les 10 ans à venir qu'Internet sur les 10 ans passés. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez des... Alors, le principe de la consommation collaborative, c'est quoi ? Là, c'est comme son nom l'indique, de rentrer dans des processus de collaboration. Je vous donne un exemple. En UK, vous avez une plateforme de consommation collaborative qui s'appelle Landshare. Landshare, ça part d'un constat simple. Certaines personnes ont un jardin, mais pas le goût d'organiser un potager. À l'inverse, d'autres personnes aimeraient avoir un potager, mais n'ont pas de jardin. Ben, le deal, c'est que tu viens faire un potager dans mon jardin, et à la sortie, on se partage 50% de la récolte. Ça, c'est de la consommation collaborative.
Airbnb. Airbnb, vous avez un logement et vous avez de la place.
D'accord ?
Eh bien, vous pourriez très bien décider de proposer la place disponible, une chambre d'un étudiant, d'un de vos enfants qui est parti aux études. Vous pouvez proposer à la location, soit moyennant rétribution, mais beaucoup moins cher qu'un hôtel, vous pouvez proposer cette chambre à la location, Airbnb. Le service a été créé en fin 2008 aux États-Unis. Okay. Aujourd'hui, le Airbnb est une société commerciale valorisée à 1 milliard de dollars. D'accord. 85 000 adhérents, présents dans plus de 20 000 villes à travers 200 pays dans le monde. Le secteur hôtelier, lors de son dernier congrès international, a lancé une mesure d'alerte par rapport à la tendance en matière de consommation collaborative, en disant que c'était un tue business pour le secteur hôtelier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que ces modèles alternatifs, pas fatalement, ils viennent percuter les modèles classiques. D'accord ? Et puis vous avez également le couchsurfing. Je ne sais pas si vous connaissez le couchsurfing. Le couchsurfing, c'est la modalité Airbnb gratuite. Donc en substance, j'ai de la place chez moi, si tu veux, tu viens, c'est auberge espagnole. D'accord ? 2,3 millions de nuitées par an, dans plus de 200 pays dans le monde. C'est colossal. L'économie de la collaboration, c'est également la possibilité d'atteindre des résultats qui seraient impossibles à atteindre, ou très difficiles à atteindre, dans les schémas classiques. Le fondateur de Skype a mené un projet en Estonie qu'il a appelé Let's Do It. Et en fait, c'est quelqu'un qui a habité un temps en Estonie, il a devait se balader dans les bois. Et il a constaté que les bois se transforment en dépotoirs publics. Et que c'était dégoûtant, et des gens allaient déverser de manière sauvage des détritus. Et donc il s'est dit, je veux qu'on nettoie ces bois. Et donc il a fait toute une série de démarches, et le coût de nettoyage des bois était évidemment astronomique, estimé à 23 millions d'euros selon des processus de nettoyage classiques. Et il s'est dit, moi je maîtrise les outils du web, je vais créer un espace collaboratif qui va permettre d'abord, un, de recenser l'ensemble des sites à nettoyer, et deux, de fédérer des gens, des citoyens, vous, moi, pour nettoyer. Il y a eu un buzz immense, ils ont eu un grand nombre de partenaires. En 6 heures, ils ont nettoyé 25 000 tonnes de déchets pour un coût global projet de 500 000 dollars. En 6 heures. Il y a une estimation qui a été réalisée, et qui a quantifié que si ça avait dû être pris en charge par les services de l'État, ça aurait pris 3 ans, ça aurait coûté 23 millions de dollars pour faire le même résultat. Ça, c'est le pouvoir de la collaboration. On est bien là sur des modèles alternatifs. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est en ça que c'est fascinant, l'économie de la fonctionnalité, elle ne propose pas ça, mais elle fait évoluer les représentations sociales vers la collaboration. Alors ça, je pourrais vous en parler toute la soirée, mais je vais m'arrêter, non ? Sinon, Bernard, il n'y aura plus de place. Do it yourself, hacking de mode de vie durable, etc. Enfin, on pourra en parler après tant que toutes ces dimensions sont fascinantes. Et puis, dernier élément, et je m'arrêterai là, tout ça nous inscrit résolument dans une conception revisitée du temps. Je vous ai parlé de l'obsolescence programmée. C'est redoutable, l'obsolescence programmée. Vous savez qu'il y a un siècle d'ici, les ampoules duraient 10 000 heures. Aujourd'hui, elles durent 1000 heures. Ça veut dire qu'un jour, on a dit aux équipes de recherche et développement d'Osram, de Philips, etc., vous allez faire tout l'inverse de ce que vous avez fait pendant des années. Et maintenant, vous allez réduire la durée de vie de vos ampoules. C'est schizophrénique pour eux. Aujourd'hui, on en est dans ce genre d'impasse. L'économie de la fonctionnalité, vous avez vu, est une réponse à la problématique de l'obsolescence programmée. Voilà.
Merci beaucoup Christophe pour cette présentation qui nous met chaud pour l'OEB. Roland, tu peux peut-être remettre la lumière, s'il te plaît. Et je passe tout de suite la parole à Bernard. Je vais continuer à le présenter parce que je me rends compte que je ne l'ai pas bien fait. Je voulais quand même ajouter qu'il est ingénieur et socio-économiste. Il a été administrateur de l'Institut français de l'École nationale de la statistique et des études économiques. Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Et ces thèmes, comme vous l'avez vu, sont l'évaluation des politiques publiques, les indicateurs sociaux de développement durable, la sociologie, l'anthropologie économique, le travail et l'emploi, les questions sociales.
Non, je tiens pas à
célébrer.
Ça suffit. Alors, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Bon, je crois qu'on est complètement en phase. Au fond, je vais redire des choses qui sont tout à fait dans le prolongement, mais sur un mode, on va dire, plus abstrait, plus déductif, plus philosophique, si on veut. Donc, ce que je retiens, deux, trois choses que je retiens de l'économie de fonctionnalité et qui nous mettent sur la piste d'un nouveau paradigme, c'est d'abord penser directement en termes de services et de fonctions, donc se fixer comme axe de progrès la dématérialisation de la croissance, donc services, fonctions, voire même résultats, comme on l'a vu à la fin, donc s'affranchir du fétichisme de la marchandise, prendre de la distance avec cette idée qui est profondément intégrée dans nos mentalités, dans nos modèles, que à tout besoin correspond un objet dont on se rend propriétaire, qui est la médiation pour répondre à ce besoin. Donc inventer des modèles d'affaires qui génèrent spontanément des efforts et des efficacités, des co-conceptions, cultiver des comportements responsables vis-à-vis de biens mutualisés, et puis également tisser des relations économiques durables, penser en termes de symbiose, en termes de complémentarité durable. Tout ça, c'est il n'y a rien de plus que de redire à ma manière ce qui vous a été dit, et je voudrais montrer comment on peut retrouver ça, mais en partant, moi je suis arrivé à ça finalement, mais plus à travers une réflexion globale. D'abord, je ne vais pas insister, constat actuel, la croissance économique n'est pas durable. Moi je travaille dans un ministère qui est à la fois un ministère qui a été traditionnellement celui du bétonnage, du développement économique, de l'aménagement des territoires, et puis qui est maintenant celui de l'écologie et du développement durable, et on vit dans la contradiction permanente entre ces deux choses, et on se rend bien compte que tout ce qui est bon pour le développement économique est généralement mauvais pour la planète. C'est simplement une. On pourrait reprendre tous ces points et montrer que dans chacun de ces points, on est sur des tendances qui ne sont pas. On ne pourrait pas imaginer qu'elles se poursuivent éternellement. Alors, j'expliquerai en fin d'exposé, si j'ai le temps, pourquoi est-ce que dans tous ces sujets-là, le changement climatique occupe une place particulière en tant que résumant à lui seul tout un ensemble de problèmes et en tant que constituant un levier probablement extrêmement puissant de changement paradigmatique. Et pour faire bonne mesure, il ne faut pas oublier non plus que la croissance économique n'est pas durable du point de vue social, du point de vue économique et social. D'abord, elle fait apparaître les limites internes du processus de marchandisation des besoins, avec d'un côté des besoins croissants en matière de qualité de vie, de santé, de sécurité, de prise en charge des personnes âgées, etc. Puis d'un autre côté, des entreprises, un système capitaliste qui a besoin avant tout de faire circuler de la matière, des marchandises, de vendre des objets, etc. Et entre les deux, on voit bien que si on est en crise économique, c'est d'ores et déjà, et ça, si j'avais le temps, je pourrais le montrer plus longuement, parce qu'on est cette contradiction entre la logique des besoins sociaux et la logique de la circulation de la marchandise sur laquelle est fondé le capitalisme. Et puis, accroissement des inégalités, crise du lien social, et enfin, nouvelles attentes collectives, une croissance qui ne fait plus rêver. Elle est nécessaire, c'est plus. La croissance, aujourd'hui, on en parle plus comme une espèce d'impératif catégorique sans lequel on ne peut rien faire, mais quelque part, dans les textes, on sent bien et on le voit à travers un certain nombre d'enquêtes d'opinion, ça n'est plus l'expansion avec un grand E, comme on disait autrefois, qui fait rêver tout le monde. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez bien et qui, évidemment, résument à soi seul le genre de situation dans laquelle on se trouve. Alors, maintenant, bon, dans mon ministère, le discours officiel, c'est celui de la croissance verte. C'est-à-dire, on a un problème, mais finalement, le problème, la solution, les solutions seront d'abord techniques. On a un certain nombre d'investissements, de recherche-développement à faire dans un certain nombre de domaines. Et finalement, on ne va pas renoncer, il n'est pas question de renoncer à la croissance, il est simplement question de verdir la croissance. Bon, alors, l'énergie nucléaire, c'est pas vraiment de la croissance verte, mais enfin, elle est quand même là pour mémoire, si on veut lutter contre le changement climatique. Captage du gaz carbonique, énergie renouvelable, éolien photovoltaïque, problème tout à fait crucial qui est d'améliorer nos capacités de stockage de l'énergie, notamment pour pouvoir utiliser plus facilement l'éolien et le photovoltaïque. Bon, efficacité énergétique, isolation, véhicules propres, puis tout le domaine de la chimie verte, bon, et j'en passe les meilleurs. Mais finalement, quand on prend passe en revue tous ces axes de solution, on voit qu'ils fournissent une partie de la solution, mais qu'il n'y a pas de miracle technologique en vue qui nous permettrait d'atteindre le facteur 4 seulement avec ces... par ses moyens technologiques. Et le constat, donc, c'est que ces réponses sont insuffisantes. Les politiques de développement durable n'ont pas permis d'inverser significativement les tendances. On l'a bien vu avec la publicité, malgré tous les efforts qui sont faits depuis une dizaine d'années, on voit que même en France, on n'a pas véritablement réussi à inverser, à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a un indicateur qui résume tout ça, donc le rythme du découplage, qui est un peu mesuré par un indicateur de productivité des ressources, donc qui a augmenté de 20% de 1990 à 2007. Donc 20%, c'est pas mal, mais on est hors du sujet. Par rapport au facteur 4, on est complètement hors du sujet. Et puis donc, au jour le jour... quand on est les fonctionnaires du ministère qui travaillent dans la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement, vivent dans la contradiction permanente entre des impératifs de développement local, un élu qui demande à créer une nouvelle zone industrielle, un nouveau lotissement, une nouvelle route, etc. Et puis, on voit bien que... cette logique de la croissance est absolument inconciliable avec la nécessité de lutter contre le changement climatique, avec la protection des espaces naturels, etc. Ça, c'est la réalité actuelle, la dure réalité. Voilà. Alors, à quoi pourrait ressembler une économie durable si on se pose la question de manière un peu abstraite, je dirais. On voit bien qu'il y aura l'économie durable, elle reposera nécessairement sur une combinaison d'innovations techniques et organisationnelles et de transformations sociales. Il faudra travailler à la fois sur l'offre et la demande, redéfinir simultanément les besoins sociaux et les moyens d'y répondre, et pour avoir les chances de mettre en place une telle économie, à un moment donné, il faudra se poser la question de la structure même des raisonnements économiques et de l'élargissement du cadre de rationalité des agents économiques pour les mettre dans un ce que j'appelle la raison écologique et que je définirai tout à l'heure comme le cadre le macro-contexte, si on veut, dans lequel aussi bien les consommateurs que les entreprises seraient spontanément conduits à modifier leur mode de consommation, les manières de production, de façon à les rendre durables. Alors, ça c'est le schéma traditionnel qu'on passe quand on... auquel sont... qui arrive inévitablement quand dans les topos sur le développement durable. On dit développement durable, c'est fantastique, c'est la réconciliation du social, de l'économique et de l'environnement. Et puis on a l'impression que ces trois choses sont un peu sur le même plan, alors qu'en réalité, bien sûr, ces trois notions sont profondément hétérogènes. Et ce schéma, qui est le schéma habituel du développement durable, on voit bien que quelque part, il est quand même parfait. Pas satisfaisant. La réalité, dans le schéma de pensée réel de beaucoup de technocrates et d'économistes, c'est celui-là. C'est de dire, ok, on a un problème avec l'environnement, mais ce qui est encore plus important, c'est le social, et puis finalement, tout ça, c'est en quelque sorte encastré dans l'économie parce que le bien-être, c'est quelque chose auquel on peut donner un prix, hein, ça se monnaie. Et puis l'environnement, les biens environnementaux, bah, finalement, il suffit de leur donner un prix correct pour que toute notre rationalité économique, toutes nos routines de raisonnement et toutes nos institutions économiques parviennent naturellement à ce qu'on protège ces biens si on leur donne un prix suffisant. Donc c'est pour ça que, évidemment, la taxe carbone est, pour les économistes, l'alpha et l'oméga le type même de choses qui peut résoudre miraculeusement tous les problèmes. Puis on a un autre schéma qui est complètement différent, c'est celui de la durabilité forte, qui est de dire l'économie c'est un sous-système du système social et le social, les sociétés humaines sont elles-mêmes un sous-système de l'écosystème planétaire. Et bien sûr, c'est ce schéma qui me semble-t-il, doit être pris au sérieux dans la mesure où la crise écologique oblige à considérer l'économie comme un sous-système de l'écosystème planétaire et donc comme un système qui est quelque part soumis à ses lois. Et on le voit très clairement avec les deux problèmes clés que sont le changement climatique et le déclin de la biodiversité. Le changement climatique, c'est une crise climatique et nous confronte à une réalité qui est que nous sommes dépendants d'un système physique qui est d'une grande complexité, que nous maîtrisons assez mal et que nous avons certainement la capacité de dérégler, mais que nous n'avons probablement pas la capacité de mettre sous contrôle. Donc nous sommes dépendants d'un système complexe que nous n'avons pas la capacité de mettre sous contrôle. Et deuxièmement, la biodiversité, nous dépendons également de ressources, de produits, de matériaux, de process qui ont été inventés par la nature après des milliards d'années de tâtonnements, qui sont d'une extrême complexité, et eux non plus, nous n'avons pas véritablement la possibilité de les mettre complètement sous contrôle, de les réguler. Nous avons également la possibilité de les détruire, mais certainement pas la possibilité de les créer. Peut-être de les manipuler, de les apprivoiser, de les accommoder, mais certainement pas à n'importe quelle condition. Et finalement, il y a des lois des systèmes écologiques dans lesquels nous nous trouvons qui, quelque part, doivent s'imposer à nous. Et moi, j'avais été très frappé par cette phrase de Lester Brown, qui est le président du World Watch Institute, qui dit, par exemple, « Dans la nature, les flux linéaires à sens unique ne survivent pas. Ils ne peuvent donc survivre dans l'économie humaine. » Dans la nature, tout fonctionne à base de tous les systèmes qui fonctionnent sont des systèmes qui reposent sur des boucles, sur du recyclage, etc. Il n'y a pas d'accumulation du type de ce qu'on fait quand on exploite une mine de charbon et que on l'exploite jusqu'au dernier kilo de charbon en accumulant après des terrils, etc. Ces processus miniers, si on veut, sont exactement l'inverse de ce qui accourt dans la nature. Et alors, on peut prendre un exemple qui est quand même assez frappant, c'est l'exemple de la photosynthèse. En effet, la grande majorité de ce que nous consommons à la fois comme ressources alimentaires ou comme énergie ou comme textile, etc., dépend de produits, de ressources qui ont été créés par la photosynthèse. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose dont je pense que beaucoup de gens n'ont pas véritablement conscience. Photosynthèse, bien sûr, y compris les combustibles fossiles, puisque les combustibles fossiles, ça n'est jamais que du produit de la photosynthèse stocké pendant des millions d'années. Donc, si on prend ça comme toile de fond, en quelque sorte, on peut poser un peu abstraitement des principes d'une économie écologique qui, donc, d'abord repose sur le fait que, bien sûr, il faut économiser les ressources rares et en particulier l'énergie. Et un des fondateurs de l'écologie scientifique, qui est Alfred Lotka au début du siècle, avait déjà fait cette observation qui est que la lutte pour la vie dans les écosystèmes est largement une lutte pour l'utilisation efficace de l'énergie. C'est-à-dire que la question de l'utilisation efficace de l'énergie est complètement fondamentale dans la nature, dans la compétition entre les systèmes. Et on peut dire que si on prend l'exemple du corps humain, par exemple, on a un modèle d'utilisation efficace de l'énergie avec en particulier la stabilité de la température, puisque comme vous le savez, si vous avez des notions de thermodynamique, vous savez que plus un système transforme l'énergie à basse température, moins il gaspille de l'énergie. Donc les ressources renouvelables, donc bien sûr l'énergie renouvelable, le recyclage, etc. Donc inscrire l'activité humaine dans des processus cycliques auto-entretenus à base de réparation, de maintenance, de recyclage en boucle courte. Parce que, bien sûr, dans la nature, on a le modèle absolu, c'est les déjections animales qui sont immédiatement recyclées dans les végétaux qui vont consommer. Bon. Bien sûr, on ne peut pas tout à fait faire la même chose, mais enfin, c'est quand même des choses dont il faut qu'on peut avoir présent à l'esprit. Alors, autre aspect intéressant, créer des interdépendances mutuellement avantageuses, l'idée de symbiose, parce que ça, on trouve ça aussi dans la nature, on trouve dans la nature finalement des millions d'exemples de systèmes emboîtés ou d'espèces qui vivent aux dépens l'une de l'autre, etc., comme les pucerons et les fourmis, hein, il y a plein d'exemples, et puis tout simplement les cellules et l'organisme, enfin, il y a les bactéries qui colonisent notre tube digestif, tout est finalement fondé sur des symbioses entre systèmes qui poursuivent chacun leur propre but, en quelque sorte, si on fait un peu de téléologie, mais avec des relations durables. Puis un autre élément, c'est cette idée d'accroître la complexité informationnelle à énergie constante. Puisque quand on regarde l'évolution, on voit que finalement, elle a fait émerger de la complexité. Et quand on regarde le cerveau humain, ben finalement, il s'est incroyablement complexifié sans que la consommation d'énergie ait cru dans la même proportion. Donc, c'est aussi un paradigme, en quelque sorte, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors concrètement, il y a déjà des choses évidentes qui sont dans les systèmes, dans les politiques, dans les solutions qui sont mises en avant pour le développement durable. On est déjà largement là-dessus, hein, sur les économies d'énergie, l'énergie renouvelable, l'éco-conception, le recyclage, l'économie circulaire ou l'écologie industrielle. Alors les produits et process biomimétiques qui essayent d'imiter des processus de fabrication par la nature, par exemple le fil d'araignée ou telle ou telle céramique produite par un coquillage, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qui émerge, mais qui est quand même extrêmement intéressant, d'autant plus que certains de ces processus justement se caractérisent par le fait qu'ils consomment relativement peu d'énergie et surtout ils produisent relativement peu de. Ils ne produisent pas de rejets toxiques pour l'environnement. Alors j'ai parlé de photosynthèse tout à l'heure, mais bon, il y a des recherches très intéressantes et très avancées sur la photosynthèse artificielle qui essayant de s'inspirer des mécanismes de la nature. Donc toute l'idée de partenariat, de coopération et de coproduction, donc sortir d'une individualisme où on a uniquement de la concurrence et, de, et le marché étant le seul lieu où il s'établit une coopération entre un producteur et un consommateur, donc passer à une vision plus large où on essaye de diversifier les formes d'interaction, de coopération, etc. Miser sur le développement, alors ça on va le retrouver bien sûr compris avec l'économie de fonctionnalité, puisque dans certains, au moins dans certains modèles, l'économie de fonctionnalité, elle repose quand même sur des relations longues entre les prestataires et les clients. Donc développement immatériel, ça veut dire développement axé sur la culture, sur l'information, sur le développement relationnel plutôt que sur la consommation matérielle. Et puis donc, tout ce qui relève de la mutualisation, transport collectif et économie de fonctionnalité. On a là un peu les mots-clés, en quelque sorte, autour desquels on doit vraisemblablement inventer une économie durable. Alors, j'en viens à ça, dans ce qui précède, je ne prétends, je n'ai rien inventé, hein, je retrouve des choses, notamment celles que vous avez dit, Christophe. Alors maintenant, c'est mon apport un peu plus spécifique, c'est, au fond, comment penser la transition vers un modèle de ce type. On peut en effet considérer que les modes de fonctionnement actuels, l'économie capitaliste, l'économie de marché, la société de consommation, etc., il ne suffit pas d'avoir des idées abstraites pour en sortir, il ne suffit pas d'avoir de bons modèles, mais on peut penser qu'on est quand même, c'est que tous ces fonctionnements sont étroitement solidaires de tout un cadre, d'un contexte social, et c'est ce que je pense on peut caractériser par l'idée de raison économique, en prenant cette idée de raison économique dans un sens assez large. La raison écologique, la raison économique, si on veut, c'est tout ce qui, dans l'organisation de la vie sociale, à travers les systèmes de prix, à travers les modes de reconnaissance sociale, à travers la mesure de la performance, à travers la publicité, à travers les indicateurs économiques, la mesure de la croissance, etc., les marchés financiers, tout ce qui finalement nous met dans un environnement, dans un contexte où nous conduisons en homo economicus étroitement maximisateur et avide de consommer toujours plus d'objets matériels, d'avoir une plus belle voiture que le voisin, d'avoir une feuille de paye, une somme plus importante au bas de la feuille de paye, etc. etc. Et donc toute la question que je me suis posée, c'est comment et ce qui est très fort évidemment dans ce cadre de la rationalité économique, c'est que c'est un cadre qui est particulièrement favorable à une certaine forme de rationalisation collective. C'est-à-dire que c'est un cadre, ça je montre ça en détail dans mon bouquin, qui possède un certain nombre de capacités assez miraculeuses pour permettre la conciliation d'une rationalisation de l'existence individuelle, c'est-à-dire le fait de placer notre existence dans une dynamique de performance, dans une dynamique de progrès, où nous sommes en quelque sorte encadrés par des critères d'efficacité et par des incitations qui nous semblent tout à fait cohérentes. Et puis en même temps, ce système de rationalité individuelle, il s'inscrit dans une rationalité collective, parce que nous savons que quand nous sommes plus performants sur le plan économique, nous contribuons également à la compétitivité de la nation, au bonheur de l'humanité, etc. Donc il y a là quelque chose qui est extrêmement puissant, et il faut se demander comment est-ce qu'on pourrait donc inscrire l'action rationnelle dans un cadre qui intègre donc de la même manière des valeurs, des finalités, des objectifs de différents niveaux et des modèles de raisonnement. Or, ce tel qu'il existe, ce cadre de la raison économique, est incapable de prendre en compte l'irréversibilité et la complexité de nos interactions avec la nature. Je vais l'illustrer sur deux, trois exemples. Et donc, nous devons créer un cadre social que j'appelle la raison écologique, dans lequel les êtres humains seraient incités, en tant qu'êtres rationnels, à se conformer aux impératifs écologiques. Bon, alors, quelques éléments sur l'inadaptation de la raison économique. D'abord, des modes de raisonnement qui ignorent les irréversibilités, parce que finalement la seule chose qui compte dans les modèles économiques, c'est ce qui est produit, ce qui est manufacturé, c'est la production, et finalement il y a un postulat qui est un postulat de substituabilité et d'échangeabilité de toutes les valeurs, et donc tout ce que cherchent les économistes, c'est à faire rentrer tous les biens environnementaux dans ce cadre-là, y compris en postulant que si nous accumulons suffisamment de capital technique et de capital humain, nous nous rendrons capables progressivement de réparer la nature, etc. Donc il y a quand même un vrai fantasme de nier les irréversibilités en les ramenant dans un cadre global où tout est échangeable avec tout et où tout peut avoir un prix. Et pour ça, bien sûr, un des éléments, c'est de ramener le futur lointain au présent grâce à la technique des taux d'intérêt et des taux d'actualisation. Le seul problème, c'est que quand on utilise des taux d'actualisation qui sont ceux qui sont habituellement utilisés quand nous calculons la rentabilité d'un investissement à 30 ans, ou quand nous arbitrons entre l'argent que nous aurons au moment de prendre notre retraite et la consommation immédiate, on voit que le taux habituel, c'est de l'ordre de 4% actuellement. Et que si on applique des taux de 4%, on voit que le bien-être des générations futures ne pèse rien. C'est-à-dire qu'au bout de quelques générations, il reste plus grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équité intergénérationnelle possible sur la base des raisonnements économiques. Ce n'est pas possible, avec les raisonnements économiques standards, de penser vraiment l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire de considérer que nos arrière-arrière-petits-enfants ont autant de droits que nous de vivre dans une planète intègre. Et puis finalement, donc, une représentation de la richesse qui est centrée sur les valeurs d'échange, centrée sur ce qui peut être échangé sur un marché. Et enfin, un individualisme méthodologique qui exclut par principe la gérance collective des biens. Et là, il y a toute une littérature très abondante, qui est d'ailleurs empiriquement, hélas, très fondée, qui montre que finalement, tout ce qui marche bien, c'est quand on peut tout transformer en droit de propriété individuelle, que toutes les fois qu'on essaye de faire des biens communaux, ça aboutit à des catastrophes, etc. Alors ça, j'y reviendrai, parce que c'est un défi qu'il ne faut pas. Mais en même temps, on voit bien que ce mode de raisonnement conduit à exclure d'emblée ou à considérer comme complètement hors champ la question de la gérance collective des biens. Or, manifestement, en termes écologiques, il y a de toute façon des biens comme l'air, comme l'eau, comme le climat, qui ne peuvent pas être gérés autrement que comme des biens collectifs. Donc, un cadre social qui suscite des comportements incompatibles avec le respect de l'environnement. Le fonctionnement des marchés est foncièrement court-termiste, parce que les conditions de la concurrence font que pour une entreprise, pour un travailleur individuel, pour quelqu'un qui joue la survie de son business sur un marché, les risques sont souvent des risques de court terme. Le risque, c'est d'être acheté, c'est de faire faillite, etc. C'est d'avoir son action qui se casse la figure sur un marché. Et tout ça, c'est des choses qui se jouent dans un univers relativement court et qui apparaissent comme assez fondamentalement contradictoires avec le souci du long terme. Et donc également des critères d'évaluation, de rémunération et de reconnaissance sociale qui sont liés aux performances marchandes à court terme. Combien est-ce que tu gagnes? Et puis ce que tu gagnes, c'est ce que tu fais gagner à ton entreprise dans un terme qui est généralement relativement faible. Et enfin, évidemment, des moyens considérables dépensés pour orienter les désirs vers la consommation d'objets, de marchandises circulaires. Donc, vous voyez, tout un ensemble de choses, à la fois dans la pensée économique et dans les cadres sociaux, qui finalement produit une certaine concentration vers les valeurs qui circulent. Or, tout le sujet aujourd'hui, c'est au contraire de porter notre attention et toute notre énergie vers d'autres choses que des valeurs qui circulent. Alors, quelques éléments du cadre de la raison écologique. Alors, j'ai essayé de brasser large, hein. C'est très hétérogène, très hétéroclite, si on veut, en même temps, ça répond bien à l'idée d'un cadre qui touche à tous les aspects, tous les éléments qui constituent le contexte de nos décisions, de nos comportements individuels. Alors, il y a un aspect que j'ai repris directement du livre de Dominique Bourg sur la démocratie écologique, c'est l'idée qu'il faut d'abord instituer les droits des générations futures. Il faut que dans nos processus de décision démocratique, il y ait des mécanismes qui nous imposent de penser aux conséquences à long terme. Donc, ça veut dire que concrètement, l'Académie du futur, c'est-à-dire un comité de sages qui est pour mission dans toutes les décisions importantes d'attirer l'attention sur les conséquences de ces décisions pour les générations futures. Et puis Dominique Bourg parle également d'un Sénat du futur, mais là je suis un peu plus dubitatif sur l'idée d'une assemblée dont les membres seraient élus spécifiquement en fonction de programmes liés au long terme. Enfin, on peut aussi penser tout simplement à des formes de planification qui obligent à produire des projections collectives, à se positionner par rapport à des projections dans le futur. Alors, il y a bien sûr la normalisation, les normes techniques pour encadrer les activités productives. Je pense qu'en matière d'éco-conception, il y a énormément à faire simplement en utilisant tout bêtement les outils de la normalisation. Et l'Europe s'y emploie, mais il faut bien sûr passer à changer de braquet sur ce côté-là. Donc des incitations économiques, bien sûr, c'est évident, la fiscalité écologique, ça va de soi. Donc il faut conceptualiser, développer, promouvoir d'autres modèles économiques comme évidemment l'économie de fonctionnalité, mais évidemment modèles qui auront d'autant plus de chances de se développer que l'ensemble du cadre les rendra plus rentables en quelque sorte. Développer des critères de performance et de progrès, de nouveaux critères de performance et de progrès à travers les indicateurs, des systèmes d'indicateurs qui complètent les indicateurs économiques, avec des indicateurs de qualité de la vie et des indicateurs de mesure de nos impacts sur l'environnement. Alors là, je ne fais que reprendre les conclusions de la commission Stiglitz. La commission Stiglitz, c'est la commission qui est une des choses les plus remarquables qu'ait fait Nicolas Sarkozy sur l'écologie, qui est de réunir une commission présidée par Stiglitz, et auquel participait également Amartya Sen, et qui a rendu un rapport très intéressant sur des indicateurs pour compléter les indicateurs économiques, avec à la fois, en distinguant donc des nouveaux indicateurs de qualité de la vie qui mettraient l'accent sur les aspects justement non marchands du bien-être, et puis des mesures de nos impacts sur l'environnement. Développant de ce que j'appelle une intelligence écologique, c'est-à-dire une éducation, une formation, une culture qui rende sensible à la complexité des systèmes et à nos interdépendances avec la nature. L'intelligence écologique, c'est pour une bonne part tirer parti d'un enseignement des sciences naturelles et de la biologie pour en tirer des concepts et des raisonnements, des manières de raisonner qui nous sortent qui mettent autre chose dans la tête de nos technocrates que des modèles néoclassiques. Évidemment, ça passe par l'éducation et du contrôle social, bien sûr, hein, forcément. D'ailleurs, le contrôle social, il existe dans le, à travers les phénomènes de le tri des déchets, etc. Le contrôle de la vitesse sur les autoroutes. Il n'y a pas de changement de mode de vie sans un minimum de contrôle social et sans un minimum d'éducation. Et puis, au niveau des valeurs, des principes éthiques, il y a des choses qui doivent être mises en avant. Évidemment, moi, je me suis beaucoup appuyé sur le principe responsabilité de Hans Jonas, qui est une base philosophique quand même très intéressante et à mon avis assez incontournable pour penser notre responsabilité par rapport aux générations futures. Alors, j'accélère un peu. Ça, c'est un exemple du cadre de la raison écologique. J'ai changé de voiture, je me suis aperçu que quand on a un compteur instantané de carburant, eh ben, c'est quand même quelque chose d'extrêmement... ça fait réfléchir. Quand on voit que quand on monte une côte à 120 à l'heure, on fait exploser la consommation, et que si on se contente de la monter à 80, ça devient beaucoup plus raisonnable. Ben, ça change durablement le comportement. Et c'est un exemple, mais évidemment, on retrouve la question des compteurs intelligents, on retrouve l'idée finalement de la multiplication de dispositifs de rétroaction qui nous renseigne en quelque sorte en temps réel sur les conséquences de nos décisions. Par exemple, si je prends une douche plutôt que de prendre un bain, qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation? Si j'éteins une lumière en sortant, qu'est-ce que ça veut dire? Si je baisse la température de 1 degré, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Toutes choses dont nous sommes parfaitement ignorants, et moi le premier. C'est-à-dire, il y a un investissement énorme dans tous ces systèmes si on veut progressivement devenir conscient de nos interactions avec la nature. Alors, la culture de la copropriété responsable, dont on a parlé, et c'est un sujet qui se pose à différents niveaux. D'abord, celui des biens environnementaux. On voit que la négociation climatique, elle n'aboutira pas tant qu'il n'y aura pas un saut qui sera fait et tant que, d'une certaine manière, les nations ne se changeront pas de logique en disant on n'est plus des puissances qui négocient des avantages entre elles, etc. On est des copropriétaires qui ont un gros problème de fuite à régler. Et voilà. Et c'est autre chose. Hein. Quand on est copropriétaire, quand on dit là, on a une merde, on a un problème. C'est autre chose que de dire on est des marchands de tapis qui essayons de... Voilà. Et c'est toute la question qui est posée. Alors, il y a une autre question qui est de nature complètement différente. C'est celle des biens immatériels, la circulation des biens immatériels, la création artistique, les logiciels libres, etc. On voit que la propriété individuelle de... Alors, premièrement, ce sont des biens qui sont cruciaux pour le développement durable, bien sûr, parce qu'ils peuvent permettre une croissance plus dématérialisée. Et de toute façon, on sait bien que c'est l'avenir. Hein. On voit aujourd'hui les jeunes vivent dans un univers qui sont imbibés de musique bien plus qu'on ne peut dire leur âge. Puis il y a tout le problème des logiciels libres, etc. Or, raisonner comme si sur tous ces domaines-là, on pouvait en revenir à strictement au cadre de la propriété individuelle en faisant respecter les droits individuels des créateurs, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour lutter contre, quand même, protéger un minimum les droits des créateurs, mais quelque part, ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est au contraire de mettre en place des dispositifs socialisés d'organisation et de régulation, parce qu'au fond, les biens immatériels, ils ont d'autant plus de valeur qu'ils sont partagés. On est dans une logique qui est complètement différente de celle de la marchandise. Et donc, il faut avoir une organisation qui soit en quelque sorte, qui prennent acte du fait qu'on est dans une économie qui est complètement différente et qui suppose là aussi une notion de co-gérance et de copropriété responsable. Et puis enfin, on a, avec l'économie de fonctionnalité, ce qu'on pourrait appeler les biens matériels mutualisables, c'est-à-dire des biens qui, au départ, ont été considérés comme des biens individuels, là, un vélo, une voiture, une photocopieuse, etc., et dont on s'aperçoit qu'ils peuvent devenir mutualisables. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne restent pas la propriété d'une entreprise, mais, comme tu l'as bien dit, il y a des comportements derrière qui sont des comportements copropriétaires responsables. Si on veut que ça marche, et on l'a bien vu avec le Vélib à Paris, il y a quand même eu des problèmes vraiment assez sérieux avec des problèmes d'incivisme, de déprédation, etc. Et finalement, tout ça donc conduit à mettre l'accent sur quelque chose de complètement différent de l'homo economicus qui a été l'alpha et l'oméga de l'anthropologie au fondement de la théorie économique, qui était un être calculateur, individualiste, égoïste, etc. Et là, il faut au contraire chercher à créer un contexte anthropologique qui facilite l'émergence d'un copropriété responsable. Et une des clés de ça, c'est le capital social, c'est les réseaux sociaux, les liens sociaux, parce qu'on s'aperçoit que, et on le voit encore dans l'exemple d'une copropriété, plus les gens sont reliés entre eux, plus il y a une bonne ambiance, plus les gens se reçoivent, se connaissent, ont des rapports de sympathie, plus ils vont avoir envie de passer du temps et de discuter entre eux des problèmes communs. Donc il y a vraiment une question tout à fait centrale qui est de penser le capital social comme un bien absolument essentiel. Et in fine, ça c'est vraiment ce qui évidemment est tout à fait inacceptable pour un économiste digne de ce nom, c'est l'idée que finalement on doit favoriser une certaine forme de démarchandisation. Alors démarchandisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître et objectiver des valeurs d'usage contextualisées et non échangeables. Reconnaître donc que toutes les valeurs ne sont pas uniquement celles qui peuvent circuler, auxquelles on peut donner un prix, mais qu'il y a de la valeur à des choses qui sont beaucoup plus liées à du vécu et donc qui par nature ne sont pas échangeables. Et donc passer de l'échange marchand à ce que j'appelle un échange social généralisé qui intègre diverses formes de transactions non monétaires, y compris symboliques. Tout ça devant aller avec, finalement, devant reposer au plan philosophique, au plan des valeurs, sur la promotion d'une conception post-matérialiste ou post-utilitariste du bien-être. J'attire l'attention sur un point particulièrement important et qui à mon avis, très un véritable point noir de la pensée économique, technocratique, etc. C'est, au fond, quand on regarde comment raisonnent les économistes, on voit que le travail, c'est toujours un sacrifice. On sacrifie 8 heures par jour pour gagner de l'argent et pouvoir consommer. Or, en fait, la réalité est tout à fait différente. La réalité, c'est c'est quand nous travaillons, nous formons, nous développons des relations gratifiantes avec d'autres personnes, on découvre des choses, et on sait très bien aussi que le travail est quelque chose de très épanouissant et qui, pour pas mal de gens, est devenu finalement aussi important que la vie personnelle. Or, dans cette nouvelle logique, il y a évidemment l'idée que on doit, à travers la recherche de la qualité, on peut et on doit, à travers la recherche de la qualité, à travers l'attention plus grande à notre responsabilité vis-à-vis de la nature, aux relations avec autrui, etc., on peut développer tout ce qui, dans le travail, peut être source d'autonomie, de développement personnel, de socialisation, etc. Et donc, finalement, faire de la qualité du travail lui-même un axe du développement et non pas simplement un moyen du développement. Alors, il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile que je mentionne, parce que là, c'est un vrai sujet j'allais presque dire d'angoisse pour moi, c'est la question de la mobilité. On voit très bien que la mobilité, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, c'est le point le plus, c'est un des points les plus difficiles, parce que toutes les valeurs les plus, auxquelles nous sommes le plus attachés, parmi toutes les valeurs auxquelles nous sommes le plus attachés dans le mode de vie actuel, il y a le droit et la possibilité de se déplacer, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, etc. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles, demain je reviens à Paris en 1h20, tout ça, c'est formidable, etc. Or, on sait très bien que les 9 milliards d'habitants de la planète ne prendront pas l'avion comme nous et que finalement, ce n'est pas non plus un idéal ni généralisable ni durable. Mais peut-être peut-on au moins travailler sur de nouvelles approches de la mobilité qui mettent davantage l'accent sur la sécurité, le confort, le bien-être physique, la convivialité, l'autonomie, l'accessibilité, l'intermodalité, le fait de pouvoir facilement venir à la gare en vélo, mettre son vélo dans un wagon, enfin tout ça. Là aussi, il y a beaucoup de choses à trouver qui nous sortiraient simplement de l'obsession, aller toujours plus loin, toujours plus vite, etc. Et puis, bien sûr, il y a une nouvelle manière d'habiter, d'occuper l'espace. Je reprends cette expression, la vie sensuelle de l'architecte Laurent Perrier. La vie sensuelle, c'est pas ce que vous croyez, encore que c'est une ville qui est faite pour l'agrément du corps, c'est-à-dire où les odeurs, les matériaux, les sensations visuelles sont faites pour que finalement on n'ait pas envie de la fuir. C'est une ville que l'on n'ait pas envie de fuir et où on a l'impression qu'on est respecté dans son être physique, ce qui est quand même loin d'être le cas actuel. Et puis donc, cette idée, donc, finalement, une nouvelle compréhension du rapport de l'homme au monde naturel, se mettre à l'école de la nature, éduquer au respect du vivant, cultiver l'intelligence écologique, ce qui passe par l'éducation. Et alors, pour terminer, pourquoi est-ce que je disais que le changement climatique est parmi tous les défis et occupe quand même une place très particulière? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous met face à la nécessité d'inventer une autre logique globale, puisqu'on est très clairement là devant un problème de contrainte globale, et on est presque de façon visible et mathématique dans l'obligation d'inventer un système où la contrainte globale devienne le déterminant majeur. C'est-à-dire qu'on est presque obligé à un moment donné de se dire, d'une part, comment est-ce qu'on partage équitablement cette contrainte, comment est-ce qu'on la gère collectivement, comment est-ce qu'on s'organise, etc. Et comment est-ce qu'on réorganise l'ensemble de nos processus économiques en fonction de cette contrainte globale, parce que elle a des impacts sur les déplacements, elle nous oblige à réorganiser toute notre manière d'habiter, notre manière de produire, notre manière de nous déplacer, etc. Et c'est pour ça que je conclurai là-dessus. On peut être particulièrement inquiet dans le fait que on sent actuellement poindre un certain découragement par rapport à cette question du climat, et on voit que dans les enquêtes d'opinion, la préoccupation climatique a tendance à décroître, et moi je crois qu'on est là devant un phénomène assez significatif qui s'apparente au déni. Moi je pense que si les gens ont autant, que ce soit les décideurs ou les simples citoyens, ont autant la tentation de regarder ailleurs, c'est parce qu'ils ont bien compris que le problème était global et que d'une certaine manière, il imposait véritablement un changement qui n'est pas simplement un changement mineur. Et je pense qu'au fond, les gens, on n'a pas donné aux gens les outils intellectuels qui leur permettent de se situer en tant qu'acteurs par rapport à cette question globale. Merci.
Merci à table. Je pense que ça. Dans combien de temps peut-être qu'on peut, alors, avant de passer à table, déjà commencer à poser quelques questions à Christophe et à Bernard par rapport à ce qu'ils nous ont exposé. En tout cas, ce que je retiens de très important, autant dans la présentation de Christophe que de Bernard, c'est vraiment cette nécessité de repenser toute une, enfin, tous les fondements de l'économie. Et sur base, et on a la chance d'avoir Gauthier Chapelle avec nous aujourd'hui, sur base fondamentalement de choses qui paraissent évidentes dans le fonctionnement des écosystèmes naturels. Il n'y a pas de propriété, le rapport au temps est probablement très différent d'une autre, etc. Donc voilà. Mais je vous laisse tout de suite la parole.
Ouais, moi, je suis quand même inquiet parce que ça fait la deuxième séance que je viens et j'ai le même sentiment. En fait, je repars de Rousseau, 1754, discours sur l'origine et l'égalité des hommes. Qu'est-ce qu'il nous dit Rousseau ? Il dit Rousseau, l'homme est différent de la nature, des animaux, parce qu'il sait s'améliorer. Il sait s'améliorer et donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la nature. Il a la liberté de choix. Je veux dire, à partir de ce moment-là, on passe à la revue française, etc., on voit que toute cette dimension de liberté est devenue une valeur universelle. Or, quand j'entends tous les discours, on n'arrête pas de nous dire, on regarde toujours la contrainte. Or, si vous avez un projet, il ne faut jamais regarder la contrainte, il faut regarder l'objectif qui est, je pense, toujours rechercher le bonheur des hommes, et combattre la contrainte ou la limiter. Mais si on prend la contrainte comme objectif, ça veut dire qu'on est géré comme des comptables, on gère le bonheur comme des comptables et on gère ma liberté comme un comptable, comme un économiste. L'objectif, c'est exactement la même chose. L'objectif, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le triple A. L'objectif, c'est le bonheur. Et le bonheur, ben, j'ai la contrainte, des contraintes économiques et des contraintes naturelles. Mais donc, je pense que dans la réflexion globale, l'objectif, c'est d'essayer de trouver comment est-ce qu'on se trouve le bonheur. Et le bonheur, ben, dans notre économie, enfin, dans l'écologie, donc, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel on vit. Mais donc, dans tous les discours qu'on a, là, la fois dernière, c'était on va faire de la technique, on va limiter les coûts, on va faire. Mais c'est, je pense qu'il faut réfléchir autrement, il faut regarder, dire voilà, je voudrais bien, je vous donne, messieurs des populations, c'est pour ça que les gens sont plus intéressés par le réchauffement climatique. Vous ne leur donnez pas un projet pour que les gens soient heureux. On leur dit, ah, vous serez moins heureux parce que vous aurez une contrainte climatique. Donc il faut absolument retrouver un projet de société qui donne, et je trouve que dans la discussion en France pour l'instant pour la présidentielle est abominable, c'est qu'il n'y a pas de projet pour que les gens rendent les gens plus heureux. On leur dit, ben, vous avez d'un côté les écologues qui vous disent qu'il faut limiter les contraintes climatiques, la droite qui dit, vous avez la contrainte économique. Mais vous n'avez aucun, la partie socialiste ne donne aucun projet de bonheur. Donc ça veut dire que dans le discours qu'on a, c'est toujours ça. La contrainte, elle existe. Ok, il faut en tenir compte, mais ce n'est pas l'objectif de la contrainte. Mm-hmm. Donc je pense que dans tous les discours qu'il y a, j'estime qu'en termes de philosophie, oui, on doit réinverser le raisonnement.
C'est pas du tout pour éviter la question, hein. On va l'aborder après, mais comme c'est prêt, effectivement, je propose qu'on passe à table maintenant, et qu'on aura tout le temps de répondre par nous, en tout cas de dialoguer ensemble sur la question et sur les théories que vous aurez.